Oui, attends. Tu utilises PowerPoint aussi.
Oui. Enfin, c'est pas PowerPoint, mais je peux avoir PowerPoint si, sinon je peux brancher directement.
Oui, voilà. Oui, voilà, ça peut être. C'est bon.
Je sens que ça fonctionne. Je vais tester. Alors. Tac, tac, tac. Ah, ça, c'est à moi.
Ah, non, non.
Voilà. Oui, c'est mieux, quand même. Alors, bonjour à tous. C'est bizarre de m'entendre dans mes micros derrière, mais c'est ça. Donc, je m'appelle Johanna Hong. J'ai été diplômée il y a 2 ans maintenant d'un DNSEP, enfin, Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique aux Beaux-Arts de Tours, qui est maintenant l'École Supérieure d'Art et de Design. Donc, c'est un petit peu changé. Mais moi, j'ai fait la spécialité art. En général. Donc moi, mon travail, c'était plutôt sur la question de la traduction de l'identité culturelle en rapport avec la mienne notamment. Et j'ai fait mon mémoire de master sur un artiste chinois qui s'appelle Xu Bing, qui travaille à peu près sur les mêmes questions. Donc, voilà. Donc je remercie aussi Jean-Claude pour son intervention parce qu'il a bien posé les bases qui vont être très utiles pour mon intervention. Et voilà, ça ouvre plein de questions, donc c'est vraiment super. Alors déjà, qu'est-ce que l'art et quel est le rôle de l'artiste? Vous avez 4 heures. De toute façon, on va pas entrer trop dans ce débat parce que je suis sûre que dans cette salle, tout le monde aura une définition différente de qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce qui fait art. Et en 1967, dans son célèbre essai, l'écrivain Roland Barthes a définitivement déclaré la mort de l'auteur. 2 ans plus tôt, Marcel Duchamp affirme que c'est le regardeur qui fait le tableau. Et en fait, ces deux citations, ça montre bien que dans un monde post-moderne, en fait, finalement, c'est à chacun de décider qu'est-ce qui fait art, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc finalement, peut-être que toutes nos définitions de ce qu'est art, ce serait valable selon ces définitions. Sauf que, quand j'étais étudiante en art, j'ai vite découvert que c'était pas vraiment ça en pratique, en tout cas dans le monde de l'art contemporain notamment. Très vite, il était clair qu'on devait produire des choses esthétiquement, justes, on va dire, pas forcément belles, mais en tout cas justes et pertinentes, et avec un discours qui allait avec et qui tenait la route. Donc finalement, c'était à nous, les artistes, et au monde de l'art en général, de définir qu'est-ce qui faisait art, et pas seulement le spectateur. Alors, dans mon intervention, il y aura vraiment beaucoup d'images, donc je vous enverrai probablement une bibliographie, une œuvrographie, ça se dit pas, mais vous me comprenez, comme ça, ça m'évite à chaque fois à dire voilà, c'était l'artiste, etc. Donc, pour un peu cadrer cette intervention, par contre, je vous propose une définition qui va être loin d'être parfaite, qui se base en partie d'une définition de Calvin Servand. Donc, l'art va être une métaphore sensorielle. Et l'artiste, son rôle, c'est de donner à voir par l'allusion son interprétation du monde, c'est-à-dire son herméneutique du monde, si on peut dire ça comme ça. Et donc la question qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'art classique et contemporain peuvent-ils nous dire sur la création, la chute et la rédemption, enfin le méta-récit biblique, en gros. Donc je vais brosser à très 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 gros traits, parce que bon, en 45 minutes, faire à peu près un millénaire d'histoire de l'art, c'est juste impossible, donc on va quand même essayer. Alors, déjà on va essayer de faire un aperçu de la croix dans l'art, parce que j'imagine que quand on dit christianisme, la première chose qui vient à l'esprit, c'est une image d'une croix. Mais cette image a évolué, son utilisation aussi. Donc d'abord cette première image, donc elle date du Moyen-Âge, donc c'est une peinture religieuse, et à l'époque, l'art c'était, enfin, il n'y avait pas encore cette figure justement de l'artiste, le bohème, qui fait un peu, qui exprime vraiment sa vision du monde, un peu déconnecté du reste de la plèbe, n'est-ce pas? Voilà, et l'art était vraiment au service surtout en principe de l'église, et d'un commanditaire, et à l'époque c'était surtout l'église, donc... Donc là, à travers la technique picturale, l'artiste va chercher à faire passer un message théologique, donc il y a un but pédagogique finalement. Ensuite, à la Renaissance, on a toujours cette idée de l'artiste qui est au service d'un commanditaire. Sauf que là, la Renaissance va vraiment apporter un renouveau esthétique et philosophique. C'est-à-dire que là, vous voyez que la représentation se veut plus réaliste. On a l'utilisation de la perspective, il y a des détails historiques. Si les gens sont plus habillés comme s'ils venaient directement du Moyen-Âge, mais il y a vraiment une... ils essaient en tout cas de reproduire ce qu'ils connaissaient de l'histoire à l'époque. On peut même voir par exemple, il y a les halos autour des femmes qui sont moins prononcés, qui sont un peu plus discrets. C'est juste une façon pour que le spectateur s'en rende compte, ah c'est des personnages sacrés, c'est pas pour dire qu'il y avait vraiment un halo derrière eux quoi. Donc c'est juste une utilisation symbolique, entre guillemets. Donc là, on voit vraiment que la crucifixion est à la fois un événement théologique, mais aussi historique, puisque l'artiste cherche à l'ancrer dans une réalité historique, quoi. Alors, on fait un très 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 grand bond dans le temps, parce que là, on arrive à la fin du 19e siècle avec Gauguin. Là, on voit tout de suite que c'est pas du tout le même délire. C'est pas, on n'est plus à Jérusalem, on est en Bretagne. Là, les trois femmes, c'est pas Marie, la mère de Jésus, et etc. C'est des femmes bretonnes. Donc, il reprend quand même des codes iconographiques classiques, mais il les transpose dans un décor onirique, pas réaliste, parce que, enfin. Voilà, le Jésus il est pas jaune comme ça, les arbres ils vont pas être rouges de cette façon, c'est vraiment une façon un peu imagée d'exprimer les choses. Et personnellement je trouve qu'il y a vraiment une ambiguïté dans cette image qui arrive, c'est que déjà la figure de Jésus, on pourrait penser que c'est un autoportrait de Gauguin, puisque lui-même plus tard il fait un autoportrait avec ce même Christ jaune derrière lui. On ne sait pas très bien, est-ce qu'on est censé s'identifier aux femmes qui sont dans une étude de dévotion, ou est-ce qu'il est en train de représenter ce que les femmes se représentent quand ils pensent à Christ. Enfin, donc c'est un petit peu... il y a plein de façons de voir les choses. Là, tout de suite, on voit que l'image est moins évidente à comprendre, qu'on peut pas... On peut utiliser le symbolisme de l'art classique pour comprendre des choses, mais ça va être un petit peu déplacé. Le sens va commencer à se déplacer subtilement, ou pas très subtilement des fois. Donc, à peu près un siècle plus tard, encore un autre bon longtemps, là, c'est Salvador Dali qui va reprendre sa crucifixion. Et ici, il va présenter Jésus, qui a le visage détourné du spectateur, ce qui est vraiment rare. Souvent, Jésus, il regarde soit le spectateur, soit, je vais pas dire par terre, mais il nous confronte plus directement, alors que là, c'est vraiment, il nous évite, entre guillemets. Jésus, il n'est pas crucifié sur une croix ordinaire, puisque c'est un hypercube, c'est-à-dire un cube, mais dans la quatrième dimension, et il semble flotter sur un décor un peu surréaliste. Donc là, l'accent, il est vraiment mis sur la transcendance du Christ. C'est-à-dire que, tout comme on ne peut pas comprendre la quatrième dimension, en tout cas, on peut mal se la représenter, on ne peut pas vraiment comprendre la figure du Christ qui est à la fois parfaitement homme et parfaitement Dieu. Donc c'est, pour notre entendement humain, c'est assez difficile. À peine plus de 10 ans plus tard, on a l'artiste pop Peter Saul qui donne à voir une crucifixion complètement trash. Et encore là, c'est la moins pire de son travail où il utilise les croix, c'est vraiment la moins pire. Là, il montre plus Jésus, mais c'est une sorte de Donald Duck qui est crucifié, et il va pas hésiter à mélanger des détails, des références au high, c'est-à-dire des éléments de la culture haute, entre guillemets, et le low, c'est-à-dire la culture populaire, trash, avec des éléments scatologiques, vraiment des choses qui, a priori, ne collent pas ensemble. Là, en fait, il s'en sert pour choquer et critiquer la société de consommation des États-Unis. Alors, lequel des images vous a paru plus choquant? Je pense que c'est plutôt celle-là. Et en fait, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ça nous choque? Et c'est sans doute pas la croix en elle-même qui nous choque, mais c'est la façon dont elle est représentée qui va nous choquer. Et à mon avis, ça révèle quelque chose sur comment nous on voit les choses. Parce qu'en fait, la croix en elle-même, c'est un scandale. Enfin, la Bible nous enseigne que c'est quelque chose de complètement choquant en fait. Enfin, à l'époque romaine, l'idée d'un messie qui vient mourir sur une croix, c'est juste n'importe quoi. Enfin, on n'en parle pas, en bonne compagnie. C'est vraiment scandaleux. Mais aujourd'hui, juste voir une croix sur un pendentif, etc., ça nous choque plus, c'est complètement banal, c'est juste un autre signe linguistique, si on veut dire. En fait, ça révèle que nous sommes encore marqués par une certaine conception platonicienne de la beauté. C'est-à-dire que ce qui est beau, c'est quelque chose qui nous élève, et comme ça nous élève, et ben, ça nous rapproche du divin. Ça se dépend, d'un côté oui, d'un autre côté non, mais en tout cas, est-ce que c'est vraiment quelque chose de biblique? Je suis pas persuadée, parce que ce que la Bible nous montre, c'est vraiment le contraire, puisque Dieu, il s'incarne dans un homme, il vient nous sauver, parce que Paul appelle une folie, dans 1 Corinthiens, et où il oppose vraiment la sagesse de Dieu à la sagesse humaine. Et même une citation dans 1 Corinthiens 1, du verset 23 à 24, « Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. » Donc je pense que ce que ça aussi peut aussi nous montrer, c'est que pour l'artiste chrétien, il faudra utiliser avec précaution l'iconographie chrétienne, entre guillemets, puisque nous vivons dans une société occidentale qui est vraiment marquée par le christianisme. Et du coup, quand on utilise des signes, c'est-à-dire des symboles du christianisme un peu qu'on connaît déjà, il y a tout de suite tout un antécédent et un inconscient collectif qui va s'ajouter dessus, qui fait que utiliser juste la croix pour parler de Jésus, c'est peut-être pas forcément adapté, ou en tout cas il faut réfléchir comment le contextualiser à notre société et à notre culture aujourd'hui. Donc juste une petite image, c'est un travail de Andy Warhol, donc une de ses sérigraphies où il présente une chaise électrique. Finalement, peut-être que la chaise électrique ce serait plus adapté pour montrer qu'est-ce qui est choquant par rapport à la croix. Si Jésus devait venir mourir aujourd'hui, il ne serait pas mort sur une croix, il serait peut-être mort d'une autre façon, sur la chaise électrique par exemple, ou d'autres moyens de torture ou d'exécution contemporaine. Voici donc l'homme. Ce survol de la croix dans l'art nous montre combien la vision du monde dans la société occidentale est de plus en plus centrée sur nous, sur nos valeurs, et pas centrée sur Dieu. Au final, c'est plus Dieu qui nous donne une grille de lecture sur le monde par sa parole, mais c'est nous qui appliquons notre propre grille de lecture à qui est Dieu. Donc ça, c'est vraiment un grand tournant qui commence dès la Renaissance. Donc ici, vous avez un tableau de Hans, alors j'espère que je prononce bien, Hans Holbein le Jeune, qui date de 1533, où vous avez au milieu plein de symboles qui représentent la connaissance et l'avancée des technologies scientifiques et les grandes découvertes qui vont avec la Renaissance. Donc, que ce soit dans les arts, sciences ou les arts, la Renaissance, c'est vraiment une période d'effervescence intellectuelle dans le monde occidental. C'est le début de l'humanisme, avec une confiance optimiste dans le progrès humain, et qui place finalement l'homme au centre du monde. C'est plus Dieu qui est au centre du monde, mais c'est l'homme. Même si les sujets du tableau encadrent des symboles de la connaissance et qu'il n'y a pas de référence a priori explicite au divin, vous avez quand même en haut à gauche, en tout petit, derrière le rideau, un crucifix qui est caché. Donc finalement, le lien avec la foi n'est pas si loin que ça, même s'il est un petit peu mis de côté littéralement, mais il est quand même présent. Et l'espèce de figure un peu étrange que vous avez au premier plan, en fait, c'est une anamorphose, c'est-à-dire si vous regardez le tableau d'un certain point de vue, et ben vous vous rendez compte que c'est un crâne. Et en fait, ça révèle que ce tableau, c'est pas juste un portrait de ces deux ambassadeurs, avec ils font l'éloge des grandes découvertes scientifiques, c'est aussi une vanité, c'est un memento mori, c'est-à-dire ça nous rappelle que l'homme est mortel, et que finalement nos connaissances ne sont pas éternelles aussi. Et en fait, on peut aussi rappeler que la réforme protestante est vraiment dans cette continuité d'effervescence intellectuelle. D'ailleurs, les natures mortes et les vanités, ça va devenir un style, un genre pictural très important pendant la réforme, puisque à cause, je mets des guillemets, de la réforme et du retour vraiment aux écritures, il y a beaucoup de réformateurs qui sont un peu devenus allergiques, entre guillemets, à toute la représentation classique qui ont construit notamment avec le catholicisme, puisque c'était associé à l'idolâtrie, parce qu'on était vraiment, non, on ne peut pas représenter Dieu, on ne peut pas représenter Jésus, parce qu'il y a un risque que ça devienne de l'idolâtrie. Entre la Renaissance et le 19e siècle, la production artistique va devenir de plus en plus institutionnelle, en tout cas en Occident. Donc il y aura des systèmes qui vont faire que des institutions vont décider si oui ou non, ça c'est de l'art. On va passer par des académies, il y aura des styles, des formations, vraiment tout un système de légitimisation de l'art. Et donc dans ce système-là, la peinture religieuse, ça va devenir juste un autre genre pictural, au même titre que la peinture historique, la peinture mythologique, le portrait, les natures mortes, etc. etc., etc. À la fin du 19e, les conventions vont être bousculées par des artistes qui veulent justement s'affranchir de ces systèmes de représentation et de ces codes, notamment dans les salons en fait, où tout le monde venait et admirer les grands tableaux qui étaient plus ou moins entassés les uns sur les autres. C'est pas comme là, on a de l'espace entre les œuvres, hein, tout est entassé et tous les ans, les gens venaient voir les nouveautés. Donc c'est à ce moment-là que les symboles ne sont pas vraiment à prendre au premier degré, puisque les conventions de représentation vont être elles-mêmes remises en cause. Et désormais, les artistes vont faire de l'art pour l'art. C'est-à-dire que l'art va devenir autoréférentiel, on ne va plus faire référence à des choses, comment dire, je vais pas dire stéréotypées, mais enfin des codes qui étaient connus par tout le monde, mais on va essayer de faire des recherches pour faire de la recherche artistique en elle-même. Donc là, c'est juste un exemple, hein, mais il suffit de prendre la figure du nu féminin. Donc là, vous avez le célèbre tableau de Manet, l'Olympia, qui est lui-même une reprise, vous voyez, d'un tableau de Titien. Et en fait, vous avez tout autour, j'ai juste tapé Olympia, hein, et vous avez plein de reprises de l'Olympia d'autres personnes qui ne sont pas Manet. Enfin, voilà. Donc ça montre à quel point on recycle un peu les figures, et on recycle les codes, et on essaie de faire des nouvelles choses avec. Peut-être que le tableau de Manet vous choque pas maintenant, mais à l'époque c'était hyper choquant, c'était un truc vraiment scandaleux, parce que par rapport à la figure du nu, donc celle que vous avez à côté de Titien, là c'était Vénus, donc c'était une représentation allégorique que les hommes pouvaient regarder sans se faire de soucis, parce que finalement ils sont en train d'admirer une beauté idéalisée, le nu féminin, c'est une allégorie, voilà, ça ne nous atteint pas entre guillemets, on peut quand même regarder une femme nue sans problème entre guillemets. Mais avec Manet, lui ce qu'il montre, ça va être une femme tout à fait ordinaire, tout à fait vulgaire même, puisqu'il s'agirait peut-être d'une courtisane. Sauf qu'il le montre à la manière de Titien, avec des références à la représentation classique de Vénus. Donc là, il n'y a plus trop moyen de se cacher. Ça montre bien que là, ce que font les spectateurs, c'est regarder une femme nue, vulgaire, et probablement quelqu'un qui voyait de toute façon en secret derrière le dos de leur femme. Enfin, après, je caricature, ils ne sont pas tous comme ça, mais ce serait peut-être comme ça. Il y a moyen que ce soit possible. Donc l'art devenait de plus en plus autoréférentiel, et on pourrait considérer que la recherche artistique est de plus en plus réservée à une certaine élite intellectuelle, puisque pour comprendre ce qui est choquant dans cette image, il faut déjà avoir une certaine connaissance et des prérequis. Donc même si l'art peut être apprécié par des personnes non initiées, entre guillemets, parce que voilà, le sens du beau, de l'esthétique, c'est tout le monde là par la grâce commune justement, mais le vrai sens, la vraie sagesse, avec des guillemets, quant à elle ne serait accessible qu'à une élite qui comprend les codes et les règles du jeu en fait, de l'art. Et en fait, c'est ce que Andy Warhol et beaucoup d'artistes pop vont vraiment mettre en évidence. Ils vont mettre en évidence cette espèce de double jeu, surtout Andy Warhol, je trouve vraiment, puisqu'il utilise des images des nouvelles icônes de la société occidentale. Donc là, vous avez Marilyn Monroe, bien sûr. Donc il est à la fois, et toujours aujourd'hui, hein, un artiste populaire, commercial, son travail se vend bien, ses expos se vendent bien, on peut répéter à l'infini cette image sur des agendas, sur des t-shirts, sur des décorations intérieures, enfin, voilà, tout le monde le connaît, et ça se vend comme des tipins toujours actuellement. Mais en même temps, l'élite intellectuelle peut se féliciter d'y discerner une critique acerbe de la société de consommation. Donc il y a quand même une critique derrière, même si c'est ludique. Ludique, je sais pas au sens péjoratif, hein, c'est juste que visuellement c'est attrayant. Mais dans cette œuvre, l'image de Marilyn Monroe, elle est tellement répétée, elle est tellement dégradée au fur et à mesure qu'elle fait une copie par du fait du médium en fait, et de sa technique, que ce qu'on voit, c'est plus Norma Jean Mortensen, donc le vrai nom de Marilyn Monroe, c'est plus la femme Marilyn Monroe, c'est une image vide finalement, c'est juste une icône, une idole presque, finalement, qui est répétée. Ce qui est assez troublant, j'ai appris aujourd'hui, puisque j'ai pas trop fait attention, mais cette peinture, il l'a faite la même année que Marilyn Monroe est décédée. Donc son image était véhiculée partout dans les médias, donc ça montre encore plus à quel point c'est vraiment une réflexion sur la célébrité, mais aussi la mort, les médias, la façon dont les images se répètent partout jusqu'au point d'en perdre son sens. Et finalement, ce qui met en évidence, c'est comment l'art ou l'image des stars peuvent devenir une idole, ou alors comment la recherche de la vraie « sagesse », toujours avec des guillemets, qui serait contenu dans les œuvres, deviennent aussi une idole. Puisque soit on achète l'image, soit on se dit « Ah, mais il y a peut-être un truc à cacher derrière, je vais rechercher le sens et moi je serai plus intelligent que les autres parce que j'aurais compris le vrai sens derrière. » Alors jusqu'ici, on a quand même pas mal vu comment l'art peut aussi tendre une sorte de miroir vers notre propre péché, finalement. Mais les artistes ont très souvent endossé, comme l'a dit Jean-Claude, une sorte de rôle de prophète des temps modernes, dans le sens où c'est eux qui vont dénoncer l'injustice et les effets de la chute, enfin les conséquences de la chute dans le monde. Donc l'injustice et la guerre, c'est vraiment un thème qui est récurrent dans l'art. Ce tableau de Goya, qui est considéré comme une des premières œuvres modernes, se démarque des tableaux de genre historique qui d'habitude vont plutôt représenter la guerre avec l'héroïsme, c'est quelque chose de vraiment victorieux et les hommes sont représentés comme étant forts sur leurs chevaux et c'est vraiment, c'est viril quoi, on sent la testostérone derrière la guerre, mais là en fait Goya il montre un truc complètement différent et en plus il joue avec l'iconographie religieuse puisque l'homme en blanc, en fait, il est représenté un petit peu comme Jésus est représenté dans la peinture classique. Et si on faisait un zoom sur sa main, on verrait qu'il y a des marques sur ses mains, un peu comme les marques de la crucifixion. Alors, mais ça, l'injustice de la guerre, c'est, comme je l'ai dit, ça revient toujours. Jusqu'à aujourd'hui, dans cette série qui a été commencée dans les années 60 par l'artiste américaine Martha Rosler, c'est une série qu'elle actualise toujours aujourd'hui, hein, qui continue. Je pense que c'était pas son intention de continuer, mais visiblement, comme la guerre ne s'arrête pas, il y a encore matière à l'annoncer, quoi. Donc cette série s'appelle House Beautiful, Bring the War Home, ce qui veut dire maison magnifique, ramener la guerre chez soi. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des photomontages d'intérieurs de maisons chic, glamour, contemporaines, bourgeoises, et elle y met aussi des images d'actualité de la guerre. Donc là, je crois que c'était à l'époque de la guerre de Vietnam, enfin je me trompe peut-être, mais voilà, elle a fait vraiment beaucoup de séries, beaucoup d'images de ce genre. Donc pendant qu'en Occident, on nous vend une vie idéale, et bien en fait, de l'autre côté du monde, se déroulent au quotidien des massacres et des injustices, qui sont en fait souvent perpétués finalement par les mêmes pays qui vendent l'image idéale, malheureusement. Et nous ne sommes pas très loin en fait de ce que dénonçaient les prophètes de l'Ancien Testament quand on dénonce l'injustice sociale et la question mais par rapport à Dieu, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Le simple fait qu'on arrive à se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde, c'est justement le résultat de la grâce commune aussi. Dans sa bonté, Dieu permet à chacun d'aspirer à un monde meilleur. Et puisque nous sommes tous créés à son image, nous avons certains de ses attributs, même si bien sûr c'est dans une très moindre mesure, on s'entend, on n'est pas Dieu, tout de même, tels que la justice, l'amour, la créativité, la capacité à réfléchir, des notions d'éthique. En fait, la doctrine de la grâce commune va nous enseigner que malgré la chute, Dieu limite le péché dans le monde, et surtout, il limite le péché qui se trouve en nous aussi. Mais c'est pas l'opinion majoritaire en philosophie, et même aujourd'hui, puisque au siècle des Lumières, qui est encore un autre grand tournant dans la pensée occidentale, l'homme est là, pour le coup, définitivement au centre du monde. Par exemple, Rousseau, il va développer le mythe du bon sauvage, selon lequel, finalement, s'il n'y avait pas la société, l'homme ne serait pas corrompu, quoi. Donc c'est vraiment l'idée que l'homme est fondamentalement bon. Et cette idée, elle persiste encore aujourd'hui, comme on peut l'avoir dans le travail d'un autre Rousseau, mais c'est pas le même, ça c'est le peintre, le douanier Rousseau, qui peint beaucoup, beaucoup, beaucoup de tableaux de nature verdoyante et luxuriante, alors qu'il a jamais mis les pieds hors de France, hein, mais des tableaux vraiment tropicaux et exotiques. Et ici, par exemple, vous avez une femme qui charme des serpents, comme si finalement on pouvait inverser l'histoire de la jeunesse, quoi. C'est plus le serpent qui nous fait chuter, c'est nous qui allons charmer le serpent, quoi. Cette idée que la société est la source du mal se retrouve, à mon avis, dans comment les villes sont représentées dans l'histoire de l'art. Après, c'est peut-être juste moi qui me fais des films, hein, c'est possible aussi. Mais j'ai quand même remarqué que la plupart du temps, les villes qui sont un peu idéalisées, soit ça vient d'une idéologie politique, par exemple le futurisme, le suprématisme, des mouvements comme ça qui sont... Bon, aussi un petit peu machiste souvent, mais aussi vous avez des villes qui vont être vides, et donc ça, je trouve que ça relève le côté c'est la société qui nous corrompt finalement. Mais en fait, c'est pas du tout ce que nous enseigne la Bible. La Bible, elle nous enseigne pas que c'est la société qui nous corrompt, mais en fait que le problème il vient de nous, du péché qui est en nous, quoi. Et d'ailleurs, les cultures humaines ne sont pas mauvaises en soi, puisqu'elles aussi seront rachetées. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse, lorsque Jean a la vision de la nouvelle Jérusalem céleste, et où toutes les personnes sauvées en tout cas, vont cohabiter et louer le Seigneur avec des différences culturelles et les différentes langues. Donc ça c'est un artiste que j'aime vraiment vraiment beaucoup, donc c'est Edward Hopper. C'est un peintre américain du milieu du XXe, et lui, entre guillemets, sa spécialité, c'est qu'il va peindre l'Amérique de son époque, hein, forcément, donc après la Deuxième Guerre mondiale, où il met vraiment en évidence notre aliénation des uns des autres, qui est le produit de la chute, le fait qu'on est non seulement déconnecté de Dieu, mais aussi déconnecté les uns des autres. Donc là, même si vous avez des figures humaines, en fait, elle ne se parle pas. Il y a vraiment un sentiment de solitude qui se dégage de ces tableaux. Toujours des lumières froides, des grands espaces assez vides, où en tout cas, s'il y a des personnes, elles ne se communiquent pas. Mais il y a vraiment une mélancolie qui se dégage de ces tableaux. Donc si ce tableau de l'époque romantique représente un voyageur qui contemple la nature sauvage devant lui, on pourrait aussi dire qu'on peut s'identifier à cet homme qui est le dos, qui scrute les nuages et la brume, puisque c'est difficile de discerner ce qui se cache dans notre être intérieur et dans notre inconscient. En fait, il n'y a que Dieu qui peut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe sous les nuages. Nous, on a beau contempler, on voit rien, quoi. On voit que la brume. Mais Dieu, lui, il connaît l'être intérieur. Donc pour le non-croyant, où est la solution? Puisqu'il ne croit pas en Dieu, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution si rien n'a de sens, ou si on n'arrive même pas à trouver le sens qui serait perdu, en tout cas? Peut-être qu'en déconstruisant le langage, comme le fait Joseph Kosuth et les autres artistes conceptuels, ou dans le théâtre de l'absurde comme de Samuel Beckett, on va réussir à reconstruire peut-être du sens par la déconstruction. Donc juste pour la petite explication, ce que Kosuth met en évidence, c'est vous avez une chaise, mais quand on pense chaise, est-ce que c'est l'objet de la chaise? Est-ce qu'on pense à l'image de la chaise? Ou est-ce qu'on pense à la définition de la chaise? Ou est-ce que c'est les trois en même temps? Donc ça montre vraiment une sorte de faillite du langage à vraiment mettre les mots sur les choses, quoi. C'est vraiment ça qui questionne les artistes conceptuels à l'époque. Dans un monde qui est de plus en plus cosmopolite, la communication devient de plus en plus complexe aussi. Puisqu'on vit dans un monde qui peine à se comprendre de base, mais en plus on rajoute des barrières de la langue et la barrière de la culture, bien sûr ça rend les choses encore plus compliquées. Donc les performances de Guy de Cointé, ça c'est une des performances de Guy de Cointé, qui est un Français qui habitait aussi en Californie pendant les années 70, montre avec un certain humour l'absurdité de nos conversations quotidiennes. Donc ce qu'il fait dans beaucoup de ses performances, c'est qu'il crée des objets qui sont manipulables, Donc, par exemple, le journal, je ne serais même pas capable de vous prononcer, mais ACRCIT, donc ce n'est pas prononçable, qui sont codés. Il va produire beaucoup de livres avec un langage codé, mais il ne donne jamais le code. Donc, c'est à vous de découvrir comment il faut lire les choses. Là, par exemple, dans cette pièce de théâtre, vous avez des femmes, c'est souvent des femmes d'ailleurs, ces personnages, c'est même toujours des femmes, habillées de façon glamour, très à la mode, qui vont avoir des conversations complètement banales sur leurs relations sentimentales, sur le fait d'aller faire les courses. Sauf que c'est complètement décousu. C'est-à-dire que si vous isolez une phrase, elle a du sens en soi, mais si vous les mettez ensemble, c'est un peu comme faire du zapping à la télé. Vous savez, vous récupérez une phrase ici et là, et en fait, ça veut rien dire, quoi. Et en fait, ce qui montre... c'est que nos interactions quotidiennes ne peuvent pas complètement combler notre désir profond d'être compris et d'être aimé. En fait, comme ce Dieu, il peut nous comprendre et nous aimer complètement, quoi. Et ça montre encore une fois la faillite du langage ordinaire et un peu l'absurdité du monde dans lequel on vit. Donc finalement, si la solution, elle n'est pas dans les autres, si on n'arrive pas à trouver la solution par nos relations interpersonnelles, peut-être qu'on va la trouver au fond de nous-mêmes. Peut-être que la solution est en nous, comme on dit souvent. Donc ça, c'est les recherches de Matt Mullican, donc c'est une vue d'exposition. Lui, son travail, c'est vraiment d'explorer la notion de langage, de l'inconscient, du symbole. Vous avez en haut toute une production, et les drapeaux aussi, c'est pareil, où il va essayer de créer sa propre cosmologie, donner du sens au monde qui se veut à la fois personnel, puisque c'est son interprétation, mais universel aussi, parce que par des symboles qui rappellent, voilà, comme le symbole pour aller aux toilettes, tout le monde comprend. Lui, il utilise un peu ce même langage pour essayer de donner du sens au monde. Ce qu'il va faire aussi, et il l'a fait pendant plusieurs années, mais il a arrêté, c'est qu'il va pratiquer de l'hypnose ou l'auto-hypnose pour que ce soit son inconscient qui crée des dessins, qui fait des grands dessins, et il va appeler cet inconscient « cette personne », donc en anglais « that person », dans une tentative de faire des recherches vraiment, pour le coup, plus qu'intérieures, puisque lui-même n'arrive pas à contrôler ce qu'il fait. La raison pour laquelle il a arrêté de faire ça, c'est que ça devenait trop dangereux physiquement et psychologiquement. Donc bon, vous pouvez en tirer les conclusions que vous voulez, mais en tout cas, apparemment, la solution n'est vraiment pas en lui, pour le coup. En 2013, donc un peu plus proche de nous, même si c'était déjà 7 ans, l'artiste française Camille Henrot va présenter une œuvre à la Biennale de Venise. En fait, c'est une vidéo de 13 minutes qui fera sensation. Je crois même qu'elle a gagné un prix à la Biennale qui s'appelle Grosse Fatigue. Donc projetée en très très grand format. Donc on s'imaginait que c'est une projection dans une pièce sombre, très très grand format, etc. Le spectateur est confronté à une chorégraphie de fenêtres qui s'ouvre et qui se referme avec des images où en fait c'est elle qui manipule des archives qui proviennent du musée Smithsonian, donc c'est la plus grande banque de données, en tout cas physique, au monde. Voilà, une autre vue de sa vidéo. Et en fond sonore, enfin c'est même pas un fond parce que c'est très prenant, vous avez un tambour donc, qui donne un rythme assez effréné d'ailleurs, et une voix masculine qui va raconter un récit de la création qui essaie de faire la synthèse de plein de récits de la création de différentes religions et différentes cultures. Bien sûr, en 13 minutes, c'est juste complètement impossible de synthétiser la plus grosse banque de données physique au monde, et encore moins de synthétiser toutes les connaissances accumulées jusqu'à aujourd'hui. Et au final, c'est prenant, c'est vertigineux, et comme son titre l'indique, c'est fatigant, c'est vraiment une grosse fatigue. Et je veux même pas imaginer qu'est-ce que ça doit être de faire ce travail-là qu'elle a fait, d'aller dans la banque de données, de faire ses recherches, de faire des plans vidéo. Enfin, moi qui faisais du travail un petit peu sur la question de l'archive, c'était déjà fatigant, même ses propres archives personnelles. Alors, les archives du monde entier, bon courage. Et pour moi, ça montre, c'est vraiment une vanité moderne. Donc, comme le dit l'Ecclésiaste, on peut multiplier les livres sans fin et le corps se fatigue à force d'études. Donc nos tentatives toutes humaines de donner du sens au monde, en quelque sorte de la racheter, parce qu'on essaie d'y donner du sens et voilà, de je vais dire de chercher la rédemption, mais c'est presque quand même cette idée-là. Bah, ça aboutit constamment à des échecs. Si c'est possible d'admirer la complexité de la création, sans être chrétien, on peut dire « Ah, la nature est merveilleuse, le savoir est merveilleux, tout ça c'est merveilleux bah, », chercher à la comprendre parfaitement, ça se révèle être, comme encore une fois le dit l'Ecclésiaste, pure poursuite du vent. Finalement, l'art classique et contemporain va souvent balancer d'un extrême à un autre. Soit ça va être un optimiste humaniste qui dit que le progrès scientifique et le progrès humain va lui donner du sens à tout, ou soit ça va être un cynisme assez fataliste sur la nature humaine. Et en ce moment, j'ai l'impression que dans une société postmoderne, on penche vraiment dans cette balance, en tout cas, de ce côté de la balance. Pardon. On va aussi balancer entre art pour art qui est élitiste et accessible qu'à une certaine élite, ou art commercial, voire utilitaire, ou enfin de la propagande en fait, si vous voulez. D'ailleurs, je trouve que l'artiste Jeff Koons, qui est là, il illustre très très bien ça. J'ai vraiment du mal avec son travail, je comprends pas si il est commercial et il fait exprès d'être commercial, ou si c'est de la critique cynique comme du pop art. Mais en même temps, il est très content qu'on lui donne beaucoup d'argent, donc en fait, dans tous les cas, il est gagnant. Mais en tant que spectateur, ça me laisse dans une position très inconfortable, parce que je sais pas si s'il fait ça pour le fun, et on voit les enfants dans les expos de Jeff Koons, pas son travail assez, disons, pornographique, mais en tout cas son travail comme ça, les enfants et leurs parents sont ravis d'avoir un ballon de baudruche géant, c'est très drôle. Mais pour... En y réfléchissant, je sais vraiment pas comment on peut tuer face à son travail, si c'est cynique ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'expérience sensible que peut produire l'art sur le spectateur et le discours intellectuel qui va avec peut nous pointer au moins en négatif à la présence de Dieu. Puisque pour l'instant, on a vu que toutes nos recherches aboutissent a priori vers des échecs. Et bah, moi, ça me pousse à penser la solution, elle se trouve pas en nous, si elle est nulle part. Peut-être que Dieu, c'est une solution viable, finalement. Et dans un monde qui est de plus en plus séculier, les musées sont un peu devenu les nouveaux espaces de recueillement où on peut faire l'expérience de la transcendance, puisqu'on va plus dans on ne tourne plus trop vers la religion pour avoir ces expériences-là. Bon, en tout cas, maintenant il y a la spiritualité, mais enfin, si vous êtes vraiment athée, vous pouvez aller dans un musée, et là vous avez un espace souvent blanc, le white cube, l'espace idéal ou neutre, où vous pouvez vous projeter et réfléchir à des œuvres qui sont proposées par des génies bien au-dessus de tout le monde, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien avec tout ça? Je pense qu'on doit vraiment se nourrir de la parole de Dieu pour avoir une juste compréhension de qu'est-ce que la Bible nous dit sur le monde. Parce que la vision du monde biblique, c'est la seule vision du monde qui propose à la fois un regard très lucide sur la condition humaine, mais en même temps qui propose une vraie solution à ce problème. Et ça, c'est vraiment une chance, finalement. On a vraiment de la chance d'avoir un Dieu comme il est révélé dans la Bible, en fait. C'est vraiment super. Il est à la fois réaliste, mais en même temps, il nous donne une solution et qui peut donner vraiment beaucoup d'espoir, non seulement à nous, mais aussi aux autres. Rappelons quand même qu'il n'y a pas de bonne nouvelle sans mauvaise nouvelle. Même si notre espérance du salut et de la rédemption finale du monde est vraiment merveilleuse, et c'est génial, enfin, c'est même inexprimable, on ne peut pas vraiment le comprendre encore, mais ça va quand même de pair avec la réalité de la chute et le fait qu'il y a un jugement qui va venir. Donc au final, il ne s'agit pas de présenter, là c'est mon avis tout à fait personnel, hein, mais présenter que la rédemption, parce qu'il faut quand même dire, bah oui, mais il y a quand même, c'est vrai qu'il y a une réalité de la chute et les effets du péché qui existent dans le monde. Et donc il s'agit de construire des ponts avec ceux qui nous entourent, c'est de l'apologétique, mais par un autre médium. Construire des ponts avec ceux qui nous entourent et témoigner non seulement de l'état d'une création qui est marquée par le péché, mais c'est aussi témoigner du merveilleux espoir qui est en Jésus-Christ. Voilà, merci pour votre attention.
Est-ce qu'il y a des questions ? Et sur ce dernier point, tu as parlé de l'art depuis toujours, mais surtout de la raison, qui est à la fois un peu humaniste, optimiste ou cynique, et voilà, le chrétien a aussi des solutions. Donc, dans le bouquin que Jean-Claude a projeté à certains moments de Schaeffer, il a dit que la chute, c'était le thème mineur, et la rédemption, c'est la croix majeure, en quelque sorte. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de chrétiens qui cherchent à véhiculer cette solution, tout en restant de bons artistes?
Merci. Très bonne question. Et pour être honnête, je cherche encore. C'est-à-dire que c'est vraiment triste, mais ça fait que un an que j'ai vraiment découvert toutes les ressources théologiques et les outils théologiques qu'il me fallait pour appréhender la question de l'art par rapport à ma foi. Donc quand j'étais en études, moi je. Pas que j'en parlais pas, mais je veux dire, ma production, elle n'avait pas un lien direct avec ma foi, quoi. Donc maintenant je peux recommander des bons livres qui en parlent, mais je cherche encore quoi. Vraiment. Désolée.
J'imagine qu'il y en a, ouais.
Jean-Claude a peut-être des images et tout. Mais c'est intéressant, je crois qu'il faut les encourager. Même si on m'a dit à plusieurs reprises que si on les présente, et ils sont parfois un peu rejetés d'office, parce que ça ne va pas dans ces deux thématiques majeures, en fait.
Ah, mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur la manière dont on en venait à être plus choqué par finalement une représentation violente que par la croix en elle-même, si on était un peu désensibilisé. Après, je vais quand même dire que ce qui m'avait moi choqué dans le tableau, le dernier tableau sur le canard crucifié, en fait, je pense que ce n'était pas seulement la violence de la représentation, c'était aussi le dévoiement en fait, d'un symbole chrétien. Je ne sais pas toi, t'en penser. Ce qui m'amène en fait à la question, je ne sais pas trop comment réagir en fait, justement, en tant que croyant à l'art qui dévoie des symboles chrétiens. Parce que je remarque que finalement la relation qu'il y a entre l'Église et l'art, c'est souvent sur le mode du scandale. On n'arrive pas trop à sortir de ça. Comment toi tu réagis en fait par rapport à ça? Qu'est-ce que tu préconiserais comme réaction?
Merci. Très bonne question. Peut-être que je suis désensibilisée, mais moi je suis pas vraiment choquée quand l'imagerie chrétienne est un peu détournée. Parce que je me dis que ces personnes qui font ces choses-là, en fait, c'est pas qu'elles savent pas ce qu'elles font, mais c'est qu'elles ont pas la même compréhension que nous de ces images-là. Et du coup, c'est pas que ça me choque pas, hein, mais juste que en fait je me dis c'est normal, ils comprennent pas comme nous. Et finalement, pourquoi est-ce qu'ils pouvaient pas utiliser une iconographie qui fait partie de la culture populaire, enfin la culture de tout le monde, qui appartient à tout le monde dans un sens, pour servir leurs propos. Après, ça veut pas dire que moi je ferais la même chose ou que je conseillerais aux artistes chrétiens de faire la même chose, mais ça me choque pas plus que ça. Après, moi, je me dis que ça fait aussi des super occasions pour témoigner de la foi, puisque si on est en discussion avec quelqu'un qui se pose vraiment des questions par rapport à ça, ou qui se dit « ouais, toi, ça te choque pas » et tout, le fait de dire « moi, ça me choque pas » et « voilà pourquoi ça me choque pas », parce que moi, mon espérance, ça vient de ça, et c'est pas ce qui est représenté dans cette œuvre, je pense que c'est une super opportunité de témoigner plus qu'autre chose, en fait.
D'autres questions?
Est-ce que je suis la seule personne qui, en fait, l'image qui me choque le plus, c'est David?
Non, c'est pas la seule.
Personnellement.
Moi, perso, c'est David.
Pourquoi? parce que le dernier est de toute évidence détourné. Mm. Donc on peut le regarder comme quelque chose de détourné, sur lequel l'artiste bâtit autre chose, mm. on le sait. Alors que David, en quelque sorte, c'est joli, mais ça... ce n'est pas du tout la croix biblique, mm-hmm. mais beaucoup de gens autour de nous peuvent dire mais c'est joli, mm-hmm. et sans regarder autre chose. En fait, mm-hmm. c'est presque comme une belle musique, enfin, comme tout ce qui est kitsch en quelque mm-hmm. sorte, et pire parce qu'en fait, les gens peuvent ne pas voir le côté chute mm-hmm. ou rupture. Mm-hmm.
Ouais, super remarque. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, la question du kitsch est vraiment très importante parce que bah, souvent, dans ce qui est produit par les chrétiens, bon, je vais pas généraliser, hein, mais souvent on tombe dans l'esthétique du kitsch, des choses simples, faciles à comprendre. Par exemple, les vidéos YouTube pour genre des musiques, genre la dernière fois c'était la chanson Devant le trône, et à un moment il parle de son nom est gravé, mon nom est gravé sur ses mains, et bah l'image d'une main, comme si j'avais oublié ce que c'était qu'une main. Enfin, voilà, il y a une sorte d'esthétique de vraiment le truc évident et. Voilà, qui vraiment pose question, et je pense qu'il y a, un réel danger là-dedans, surtout quand on s'adresse à un public qui est peut-être plus averti par rapport à la question de l'art, où il y a une question de « mais vous me prenez pour des débiles, quoi ?» Enfin, je veux dire, c'est vrai, mais pour la croix... Et en fait, finalement, on cache le vrai message de l'évangile, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention par rapport à ça, effectivement.
Dernière question.
On a parlé à un moment donné de l'artiste prophète, entre guillemets, justement, je crois que c'était en début de présentation. Et je trouvais assez intéressant de relever peut-être ça aussi dans l'art, aujourd'hui l'art contemporain, si l'artiste chrétien est dans cette sphère d'artiste prophète, est-ce qu'il ne peut pas justement être un prophète qui tend vers Dieu et du coup qui, dans son travail, en fait, plutôt que de montrer Dieu, montre la condition humaine et un petit peu comme... je sais pas, moi, tous les prophètes qui disent bah, malgré cela, vous ne vous êtes pas tourné vers Dieu, et qui, du coup, par le questionnement, enfin, le fait de mettre en face de son propre péché et justement la non-possibilité de, par le biais du discours, de dire bah, moi j'essaie de trouver cette solution, par exemple, je sais pas.
Oui. Non mais oui, complètement. Après, je pense que juste comme les prophètes de l'Ancien Testament, il ne faudra pas être étonné si la réception de notre travail est vraiment bah, qu'on va avoir des souffrances derrière, dans le sens où personne ne va vouloir mon message, etc. De l'autre côté, c'est ce que vivaient les vrais prophètes aussi de l'Ancien Testament, donc c'est pas une surprise, j'ai envie de dire.
Moi j'aurais juste une question par rapport à ta pratique personnelle. Qu'est-ce que toi tu recherches premièrement à faire parce que tu disais que ça fait que un an que tu as des ressources pour voir comment lier ta pratique à la foi. Quel fruit ça a apporté du coup dans ton travail concrètement d'artiste quoi.
J'avais trop envie de dire quelle production, parce que du coup pour tout avouer, là je suis plus du tout dans le milieu de l'art, je suis stagiaire relais au GBU, donc c'est ma deuxième année de stage, et je pense que toute mon énergie de réflexion intellectuelle et créatrice va dans le stage, donc du coup j'ai pas trop le temps pour produire, mais c'est normal en fait, parce que la production artistique, c'est vraiment un boulot à temps plein et qui demande beaucoup de temps et de maturation. Donc pour l'instant, j'en suis pas là, on va dire, et je cherche encore à savoir comment est-ce que Dieu peut utiliser mes études autres que l'apologétique ou autres que voilà, le fait de savoir travailler toute seule sur des projets à long terme. Mais sinon, je sais pas trop pour l'instant. Donc, après, c'est vrai que par rapport à mon travail de diplôme, je pense que j'ai plus rien à dire sur la question de mon identité culturelle, parce que finalement, déjà à la fin de l'année, de cinquième année, je le sentais. En fait, j'ai rien à dire là-dessus parce que mon identité, elle n'est pas dans ma culture, ni dans ma langue, ni quoi que ce soit, elle est dans Christ. Du coup, au bout d'un moment, j'ai un peu épuisé le côté culture hybride, parents chinois, des Philippines, mais moi je suis née en France et je parle anglais, je parle pas chinois. Enfin, toute cette question-là, je veux dire, elle était réglée, donc j'avais pas le besoin de l'exprimer plus que ça, quoi. Donc, je ne sais pas.
Merci. Alors je vous propose qu'on arrête là pour le moment. On a un temps de pause jusqu'à midi. On reprend à midi avec Dominique Renaille-Besant sur la littérature. Vous pouvez utiliser ce temps de pause pour discuter avec les orateurs, prendre un petit café, des petits biscuits. Je vous dis à tout à l'heure.
Merci.